Manda, qui vous dit au revoir.
Le Monde aujourd'hui, Jean-Roger Billon à ce micro, au sommaire de cette édition du lundi 4 novembre 2024. Donald Trump et Kamala Harris s'affrontent ce lundi dans d'ultimes meetings électoraux à la veille d'un vote aux enjeux critiques pour les États-Unis et le reste du monde.
Tout ce qu'on nous paye, ça part dans les piles. C'est la raison pour laquelle nous voulons un nouveau président.
Nous retrouverons à Houston Nani Talani pour un état des lieux. La communauté malienne de Philadelphie, dans l'état pivot de Pennsylvanie, se prépare également à voter demain. Reportage à suivre dans un instant. Le nouveau président du Botswana, Duma Boko, a pris fonction ce lundi. Le Tchad menace de se retirer de la force multinationale de sécurité opérant dans le bassin du lac Tchad. Ne manquez pas notre page sport. À tout à l'heure. Présidentielle américaine, J-1, l'ancien président républicain a multiplié aujourd'hui les déplacements, se rendant notamment dans 3 des 7 États décisifs, Raleigh en Caroline du Nord, Pittsburgh en Pennsylvanie et Grand Rapids dans le Michigan. Kamala Harris a prévu, elle, de sillonner la Pennsylvanie à Allentown, considérée comme l'une des zones les plus indécises de l'État, puis à Pittsburgh et Philadelphie. Notre reporter Yacouba Ouedraogo est à côté de la présidence tant convoitée, la Maison-Blanche. Bonsoir Yacouba.
Bonsoir Jean-Roger, bonsoir à tous.
Les sondages sont serrés entre les deux candidats. Le spectre du 6 janvier 2021 plane et les autorités ont pris des mesures pour parer à toute éventualité. Yacouba.
Effectivement, je suis juste à côté de cette Maison-Blanche tant convoitée, vous l'avez dit, notamment par Kamala Harris et Donald Trump dans la capitale fédérale, ici même à Washington D.C., on le voit, des barrières métalliques sont érigées autour de la Maison-Blanche. Impossible, hein, comme à l'accoutumée pour les touristes, de se rapprocher de cette enceinte pour des prises de vue. Les forces de l'ordre veillent au grain. Il n'y a pas que la Maison-Blanche qui est sous haute surveillance. Le Capitole ou le siège du Congrès et d'autres sites sensibles, hein, sont protégés par des barrières métalliques. Vous l'avez dit, le spectre du 6 janvier 2021 plane. À cette date-là, Donald Trump, qui n'a jamais reconnu sa défaite à la présidentielle de 2020, a vu ses partisans prendre d'assaut le Capitole pour empêcher la certification des résultats par le Congrès. Plus jamais ça, avaient dit les autorités qui ont pris des mesures conséquentes cette fois-ci pour éviter que cela se reproduise. Et justement, ces mesures-là affectent le quotidien des riverains de la Maison-Blanche, comme Ray, qui se fait appeler Dan Best, que j'ai rencontré ici.
My name is Dante Best.
Mon nom est Dan Best.
Am I scared about the outcome?
Ai-je peur des résultats des élections? Absolument. Je pense que cela est très important parce que vous avez un camp qui isole les divise l'Amérique, celui de Donald Trump, et vous avez dans l'autre camp quelqu'un qui n'est pas qui elle prétend être. Donc je pense que tout cela est effrayant. Oui, je suis d'accord que tout cela est effrayant.
Especially, yeah, I agree. I think all this is very scary.
De quoi avez-vous peur?
I'm scared about, the immigration.
Je crains l'immigration, de qui sera le prochain président, vous me comprenez, oui.
À propos de la sécurité, nous l'avons vu la dernière fois, le 6 janvier 2021, pensez-vous qu'un tel événement pourrait se reproduire?
Avec les émeutes, oui, absolument. Parce que s'il n'est pas élu, il pourrait encore déclencher des émeutes. Vous comprenez? Tout ce que cela prendrait, et c'est ce qu'ils disent. C'est effrayant pour moi en particulier, parce que je vis près d'ici. Tout cela est donc très effrayant, très nouveau pour moi.
Est-ce que cela affecte votre vie quotidienne?
Plus je le vois dans les informations, plus cela devient réel. Cela devient la réalité, donc cela affecte ma vie. Nous en parlions ce matin au réveil. Nous nous disions, le jour approche, donc oui, nous sommes nerveux.
Yacouba, ailleurs, la sécurité a aussi été renforcée pour ces élections.
Tout à fait, Jean-Roger. Dans l'État de Washington et celui du Nevada, par exemple, les autorités ont mobilisé les réservistes de la garde nationale, entendez l'armée, à titre préventif. En Géorgie, des agents électoraux sont équipés d'un dispositif à bouton d'alarme permettant d'avertir les autorités en cas de danger. Dans d'autres États, certains bureaux de vote sont surveillés par des drones ou même des tireurs d'élite perchés sur des toits. près de 80 millions d'Américains, dont la candidate démocrate Kamala Harris, ont déjà voté par anticipation. Son rival Donald Trump devrait, lui, voter en personne demain mardi, jour de l'élection, donc près de sa résidence en Floride. Les deux camps ont d'ores et déjà engagé des dizaines d'actions en justice, mais poursuivent leur campagne dans des états pivots ce lundi. Vous l'avez dit, Jean-Roger.
C'était Yacouba Ouedraogo depuis la Maison-Blanche, ici à Washington. Les voix des Américains de la diaspora africaine à Houston, dans le Texas, sont de plus en plus importantes dans les élections des États-Unis, alors qu'ils veulent contribuer à façonner l'avenir de leur nouvelle patrie. Pour beaucoup, comme Daily Blessing, d'origine congolaise, ce vote est l'opportunité de défendre des valeurs comme la justice économique. Retrouvons en direct de Houston, Nanit Talani. Bonsoir Nanit.
Bonsoir Jean-Roger. Il faut dire que de nombreux immigrants africains vivant dans la ville texane de Houston participent activement au processus électoral en cours, motivés par des enjeux cruciaux qui touchent directement leur quotidien. Ted Blessing, une jeune mère de 3 enfants qui vote pour la première fois cette année en tant que citoyenne américaine, cite l'économie et l'inflation comme ses principales préoccupations. Ces deux enjeux affectent durement les familles et les travailleurs de la classe moyenne, rendant le coût de la vie de plus en plus difficile à supporter pour de nombreux ménages, y compris pour les immigrants. Écoutons Del Bessing.
Merci Nanit. Apparemment, nous avons quelques soucis techniques avec Nanit en direct.
Pour Del Blessing, il est crucial que les élus s'engagent à améliorer les conditions de vie de tous, en particulier pour ceux qui travaillent dur pour subvenir aux besoins de leur famille. En attendant le jour J demain mardi et le résultat du vote, la jeune femme et bien d'autres espèrent que le prochain président des États-Unis prendra en compte leurs préoccupations et œuvrera pour une économie stable et des politiques inclusives. Nanit Talani, Houston, pour VOA Afrique.
C'est ce mardi, donc demain matin, que les Américains se rendent aux urnes pour les élections présidentielles, parlementaires et locales. La ville de Philadelphie, dans l'État de Pennsylvanie, abrite une forte communauté malienne aux États-Unis. Notre envoyé spécial, Georges Attino, a rencontré quelques-uns d'entre eux.
Chaque semaine, la famille Diabaté devient le point de rencontre de la communauté malienne à Philadelphie. Ici, on discute autour d'un bon plat de riz au gras, accompagné d'un bon verre de thé. Aujourd'hui, les discussions habituelles sur la situation au Mali laissent place aux élections présidentielles américaines. Bamoukou Diallo, responsable d'un centre de formation pour les immigrants d'Afrique et d'Amérique latine, se dit inquiet au sujet de cette élection.
Dans notre centre, on a des immigrés, donc ces gens-là aussi, ils ont peur. Bon, on ne sait pas comment ça va aller. C'est un peu compliqué.
Entre deux gorgées de thé à la menthe, Mohamed Sanou souligne l'importance de cette élection présidentielle. Il appelle la communauté à se mobiliser pour assurer une meilleure représentation de la diaspora ouest-africaine dans la politique américaine.
Nous, les Africains présents ici aux États-Unis, nous avons compris que nous devons être unis. Cela nous aidera à défendre nos intérêts au sein des plus hautes instances de l'État.
Un appel qui a de plus en plus d'écho ici à Philadelphie, afin de prendre exemple sur d'autres communautés africaines pour avoir enfin des représentants, et cela passera par une meilleure organisation. Georges Attino à Philadelphie pour la VOA Afrique.
De nombreux États américains pratiquent le vote anticipé en personne jusqu'à la veille des élections. La Virginie offre cette formule de plus de 40 jours avant le scrutin, comme l'Illinois, le Minnesota, le Mississippi, South Dakota et le Vermont. 4 États ne proposent pas ce vote anticipé en personne. Il s'agit de l'Alabama, du New Hampshire, de l'Oregon et de la Pennsylvanie. La Virginie a refermé ses bureaux de vote par anticipation ce week-end après 45 jours d'ouverture. Visite guidée d'un centre de vote de cet État avec Nathalie Barge.
Les environs de la plupart des bureaux de vote en Virginie sont généralement parsemés de petits panneaux électoraux partisans, comme ici au bureau électoral principal du comté de Prince William à Manassas, qui permet le vote anticipé depuis le 20 septembre. Eric Olson, directeur des élections pour ce comté, est l'un des artisans du vote anticipé conçu pour réduire les files d'attente le jour du scrutin.
Le vote anticipé est un processus qui se déroule plusieurs semaines avant l'élection dans différents endroits du comté. Nous avons environ 100 bureaux. Je pense que jusqu'ici, nous avons atteint 100 000 personnes qui ont voté par anticipation ou par correspondance et nous aurons probablement un nombre similaire le jour du scrutin. Le nombre d'électeurs présents sera également le même.
Depuis la présidentielle de 2020 qui a eu lieu en période de pandémie, les États ont élargi les options de vote. La popularité croissante de cette méthode s'est poursuivie depuis lors, notamment auprès des personnes âgées, comme Antonetta Nordberg, accompagnée de sa fille Kimberly.
En tant que citoyenne américaine naturalisée depuis de nombreuses années, je viens voter. C'est mon devoir de voter et c'est un honneur de voter. Je suis ici avec ma fille Kim. Oui, nous sommes ici pour voter tôt parce que le processus est beaucoup plus facile et c'est comme vous le feriez n'importe quel jour de scrutin ordinaire. Mais encore une fois, c'est un droit très important que nous avons tous ici en Amérique de voter pour qui va nous représenter au niveau du comté, de la ville et au niveau national pour notre président.
La Virginie, la Louisiane et le Tennessee font partie des États où les électeurs votent volontiers avant le jour de l'élection. Patricia Young est ravie d'avoir pu voter avant le 5 novembre pour ne pas être bousculée.
Je suis venue ici aujourd'hui pour voter par anticipation parce que j'ai eu un accident. J'ai un bras cassé et je voulais donc venir parce qu'il n'y a pas beaucoup de monde, comme ce serait le cas le jour des élections. J'étais donc plus à l'aise et les gens ici sont très amicaux et coopératifs. Et cela n'a pas pris beaucoup de temps. C'est très important de voter et d'exercer le droit qui nous est donné.
Les électeurs se voient généralement abordés par des volontaires de partis politiques qui ne doivent pas dépasser une ligne de démarcation à environ 10 mètres de l'entrée. Jeff Porter, militant du Parti démocrate depuis 1968, a vu défiler plus de 700 électeurs dans la journée.
Nous faisons cela depuis le 20 septembre, car nous avons environ 45 jours de vote par anticipation dans l'État de Virginie. Nous donnerons certainement du travail à des volontaires le jour de l'élection, le 5 novembre.
Ce jour-là, les volontaires du Parti républicain ont refusé de donner une interview à VOA Afrique. Un seul point de convergence sur les petits guides des deux partis, l'approbation d'une question référendaire sur l'exemption de taxes pour les veuves ou veufs de militaires en Virginie.
L'actualité en Afrique et dans le reste du monde, le nouveau président du Botswana, Duma Boko, a pris fonction aujourd'hui. L'avocat de 54 ans a salué lors d'une cérémonie de passation de pouvoir avec son prédécesseur une transition démocratique exemplaire à l'issue des élections qui ont détrôné le parti au pouvoir depuis 58 ans. Aux côtés de son prédécesseur Modgusi Matsisi, âgé de 63 ans, il a dit endosser avec humilité les responsabilités et attentes considérables qui sont en jeu dans le pays à l'économie en berne. Monsieur Matsisi a de son côté souligné que la démocratie n'était pas une abstraction. Le principal opposant mozambicain Venancio Mondlane a affirmé avoir été victime d'une tentative d'assassinat en Afrique du Sud, où il avait trouvé refuge après des élections dont il conteste les résultats. Selon les résultats officiels annoncés le 24 octobre, le parti au pouvoir depuis 49 ans, le Frelimo, a remporté les élections présidentielles et parlementaires du 9 octobre. Venancio Mondlane, qui dit avoir quitté l'Afrique du Sud, a réitéré son appel à 7 jours de grève, une paralysie totale devant aboutir à une grande marche dans la capitale Maputo jeudi, qu'il annonce comme le jour de libération du Mozambique. Au Soudan, le chef de l'armée, le général Abdel Fattah Burhan, en guerre contre les paramilitaires, a annoncé un remaniement ministériel avec le remplacement de 4 ministres, dont ceux des Affaires étrangères et des médias. La guerre civile a débuté en avril 2023. Elle oppose les militaires aux paramilitaires des forces de soutien rapide, les fameux FSR, sous le commandement de son ancien adjoint Mohamed Abdan Daglo, Le conseil n'a pas révélé les raisons de ce remaniement, mais il coïncide avec une montée de la violence dans l'état d'Al Jazeera, au sud de la capitale Khartoum et dans la vaste région du Darfour Nord à l'extrême ouest du Soudan, à la frontière avec le Tchad. Le président du Tchad, Mahamat Debi, a menacé de retirer son pays de la force de sécurité multinationale qui, selon lui, a échoué dans sa mission de lutte contre les djihadistes dans la région du lac Tchad. Le chef de l'État tchadien a fait cette déclaration dimanche lors d'une visite dans la région. Une quarantaine de soldats tchadiens ont été tués lors d'une attaque menée dans cette région par des militants présumés de Boko Haram à la fin du mois d'octobre. Le travail de la force conjointe a été compliqué par des divisions et un manque de coopération, mais le retrait du Tchad représenterait un coup dur car ses forces armées sont parmi les plus respectées de la région.
VOA Afrique, à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Israël a informé officiellement l'ONU ce lundi de l'interdiction de l'UNRWA, une agence onusienne considérée comme la colonne vertébrale de l'aide aux réfugiés dans les territoires palestiniens occupés en pleine guerre dans la bande de Gaza plongée dans un désastre humanitaire. Dans le même temps, l'armée israélienne a mené de nouvelles frappes à Gaza et au Liban, où elle combat respectivement le Hamas et le Hezbollah, deux mouvements islamistes pro-iraniens qu'elle cherche à mettre hors d'état de nuire. L'armée israélienne a par ailleurs annoncé l'élimination au sud du Liban de Riyad Rida Ghazouani, un commandant de la force Redouane, l'unité d'élite du Hezbollah. L'armée espagnole a poursuivi ce lundi son déploiement dans la région de Valence, frappée par des inondations dévastatrices, alors que le mécontentement populaire grandit quant à la réponse des autorités à la catastrophe qui a fait au moins 217 morts. Quelques 5000 soldats ont été repêchés au cours du week-end pour aider à distribuer de la nourriture et de l'eau, déblayer les rues et protéger les magasins et les biens des pillards. Et 2500 autres devraient les rejoindre ce lundi, a précisé la ministre espagnole de la Défense. La légende de la musique américaine Quincy Jones, ancien producteur de Michael Jackson et de Frank Sinatra, est décédé à l'âge de 91 ans. Quincy Jones a aussi su s'imposer à Hollywood, où il a composé des musiques de films et d'émissions de télévision. Sans transition, nous passons au dossier de ce jour. En commençant par le Ghana, pour parler de l'exploitation sauvage de l'or, une exploitation qui explose et empoisonne la population et la nature. Les précisions de John Lyndon.
Dans une mine d'or non agréée du Ghana, des hommes vêtus de t-shirts, de shorts et de bottes en caoutchouc pataugent dans des mares d'eau boueuse et chargées de mercure. Ils extraient des pierres à main nue et actionnent une vanne branlante à la recherche du précieux minerai. L'un d'eux, qui préfère garder l'anonymat, justifie pourquoi il s'est engagé.
Avant de commencer, je n'avais rien. Alors je me suis dit non, je dois aussi entrer et obtenir quelque chose. Lorsque j'ai commencé à extraire de l'or, je gagnais environ 60 000 CD. Alors je me suis lancé, j'ai pris des garçons et nous avons commencé à faire le galamsi.
La mine délabrée fait partie d'une activité en plein essor qui génère des moyens de subsistance et des sources de revenus informels pour l'économie ghanéenne, même si elle nuit à la santé des mineurs, pollue les cours d'eau, détruit les forêts, les plantations de cacao et alimente la criminalité.
Potentiellement, 70 à 80% des mineurs d'or n'ont pas de licence. Il s'agit donc d'une industrie très informelle, ce qui facilite l'implication du crime organisé. Mais c'est aussi à cause de l'éloignement des mines. Beaucoup d'entre elles se trouvent à la frontière internationale, en particulier dans le nord. Elles se trouvent donc dans des endroits inaccessibles. C'est facile. Il y a moins de gouvernement, il y a moins de surveillance de la part du gouvernement, il y a moins de patrouilles. L'emplacement des mines est donc pratique pour le crime organisé, pour les groupes criminels organisés.
L'industrie de l'extraction d'or sans licence, connue au Ghana sous le nom de galamsey, s'est développée à un rythme effréné cette année, les prix mondiaux de l'or ayant augmenté de près de 30%, ce qui a attiré de nouveaux entrants. Pour certains, la pratique des galamsey doit cesser.
Le galamsey doit cesser. Tous nos plans d'eau ont été pollués Pendant combien de temps allez-vous rester assis à regarder tous ces politiciens nous faire subir cela? Non, nous ne pouvons pas. Ils disent que la vie, c'est l'eau, mais que nos masses d'eau ont été polluées. Comment pouvons-nous vivre longtemps? Ce que nous disons, c'est qu'il faut arrêter le galamsi parce que nous voulons vivre longtemps. Nous ne voulons pas tomber malade, nous ne voulons pas aller à l'hôpital, nous ne voulons pas avoir de problèmes rénaux. Nous voulons vivre longtemps, nous voulons profiter de la vie, même si nous n'avons pas d'argent. Nous voulons profiter de la vie. Nous disons arrêter le galamsi maintenant ou jamais.
Environ 40% de la production totale d'or du Ghana provient de petites mines par opposition aux concessions exploitées par des multinationales. Les petites mines ont produit 1,2 million d'onces d'or au cours des 7 premiers mois de l'année, soit plus que pendant toute l'année 2023, selon les données du régulateur du secteur minier ghanéen. Les dangers du galamsi sont nombreux. Des dizaines de mineurs ont été tués dans l'effondrement depuis ces dernières années, selon les médias et les groupes de défense et des droits de l'homme, tandis que les hôpitaux et les centres de santé font état d'un nombre élevé de décès prématurés dus à des maladies pulmonaires chez les mineurs et les habitants des villes et villages situés à proximité des mines.
Le Gabon vient de vibrer au rythme du FIS, le Festival international des sports extrêmes. Pendant 3 jours, la baie des Rois, futur centre des affaires du pays, accueillait des passionnés du sport urbain ainsi que des curieux venus découvrir l'univers du skateboard, de la trottinette, du roller ou encore de la breakdance. Un moment idéal pour les amateurs locaux de tester leur endurance physique et d'apprendre de l'expérience des athlètes internationaux. Le reportage de notre correspondant à Libreville, Ismaël Obiangze.
Un zeste d'adrénaline, une sacrée dose d'organisation et une passion à partager au public libre-villois. Voilà les principaux ingrédients qui, 3 jours durant, viennent de réunir des centaines de participants autour du Festival des sports extrêmes à Libreville.
Nous, on a ramené 5 ambassadeurs, 2 rollers, 2 skateboards et 1 trottinette pour des petites démonstrations qui ont lieu 2 fois dans la journée.
Si les professionnels venus d'Europe étaient évidemment les stars de l'événement, les amateurs locaux se sont imposés en montrant de quoi ils sont capables.
Pour remarquer aujourd'hui, je n'ai carrément plus de voix tellement j'ai crié. Dans le jargon, on dit j'ai hypé tout le monde. Donc j'ai tellement crié que je n'ai plus de voix. Le spectacle était au rendez-vous et c'était vraiment magnifique.
Le FIS se définit comme un événement populaire et un véritable berceau des talents. Lilian, 14 ans, est médaillée d'or dans la catégorie junior de Skiller Skit.
Je pensais pas forcément être premier, vu qu'il y a mon concurrent, mon rival, D-Machine, Luc Alexandre, qui est assez fort. Ça s'est joué de très peu de points d'écart pour pouvoir gagner. Mais sinon, je suis quand même content d'avoir gagné.
Ce rendez-vous incontournable des sports urbains a fait sensation auprès du public gabonais qui en redemande.
C'est juste incroyable de voir ce qu'on est capable de faire avec un premier espace. Donc on se dit que s'il y a beaucoup plus d'espace comme celui-là, ça peut multiplier ce type d'action et ce sera à féliciter. Un sport qui a une portée mondiale et qui est aussi représenté aux Jeux Olympiques. Je pense qu'il y a quand même matière à ce qu'un sport érigé aux Jeux Olympiques soit pratiqué au Gabon.
Pour la direction de la façade maritime du champ triomphal de Libreville, promotrice du FIS, cette seconde édition a atteint ses objectifs.
Le FIS District Libreville avait pour premier objectif de permettre à la jeunesse gabonaise de pouvoir participer à un événement mondial, puisque le FIS est un des plus grands festivals de sport urbain au monde. On le retrouve en France, on le retrouve au Moyen-Orient et également en Asie. Et permettre également donc, du coup, à des sportifs internationaux de pouvoir former, encadrer et permettre le concours de skateurs et des riders gabonais.
En 2 éditions du Festival international des sports extrêmes, le Gabon peut désormais compter sur environ 200 jeunes initiés à la pratique des sports urbains. Ismaël Obianze pour VOA Afrique, Libreville.
Vous suivez VOA Afrique, place maintenant au sport avec Eric Manirakiza. Bonsoir Eric.
Bonsoir Jean-Roger.
Ligue des champions, affiche Real Milan et Inter Arsenal.
Les deux clubs les plus titrés de la Ligue des Champions, le Real et l'AS Milan, s'affrontent mardi à Madrid dans le grand choc de la quatrième journée de la phase de Ligue, suivi par un alléchant Inter-Arsenal le mercredi. Impossible de faire mieux pour l'histoire. Real Milan, c'est le match 22 coupe aux grandes oreilles. 15 pour la Maison Blanche et 7 pour les Rossoneri. Leur lointain dauphin au palmarès. Mais les deux monstres sacrés ne sont pas au mieux. Jean-Roger.
NBA, Atlanta et Dallas se baladent.
Atlanta et Dallas ont écrasé leur rencontre face à la Nouvelle-Orléans et à Orlando lors d'une soirée NBA limitée à 3 matchs dimanche. Dans un match sans grande intensité, les Atlanta Hawks ont facilement dominé les Pelicans de la Nouvelle-Orléans, 126-111, privés à la dernière minute du puissant Zion Williams pour Williamson pour une raideur à un muscle ischio-jambier. Autre défaite à domicile, les Brooklyn Nets ont été surpris par les Detroit Pistons 106-92. Les Dallas Mavericks ont facilement battu le Magic d'Orlando 108-85. Avec un seul magicien sur le terrain, le Slovène Luka Doncic pour un bilan de 4 victoires et 2 défaites. Doncic qui avait mené les Texas à les Texans. À la finale NBA au printemps a fait la différence en première période, 25 points pour finir avec 32 points, 9 rebonds et 7 passes à 11 sur 22 au tir.
Marathon de New York, Cheptegei et Nadjie, vainqueurs surprise.
La Kenyane Sheila Chekiri et le Néerlandais Abdi Nagei ont créé de petites surprises en remportant le marathon de New York et dimanche, leur premier succès majeur à 33 et 35 ans. Cheptegei s'est imposé en 2h24 minutes 35 secondes après avoir réussi à se débarrasser sur une dernière accélération de sa compatriote Hélène Obiri, 2h24 minutes 49 secondes, vainqueur à New York en 2023 et médaillé de bronze aux Jeux Olympiques de Paris cet été. Cheptegei avait pris la 6e place du marathon de Londres au printemps après avoir brillé l'an passé à Berlin avec une 2e place en 2h17 minutes 49 secondes. Nagui, vice-champion olympique à Tokyo en 2021 derrière Eliud Kipchoge, a lui aussi décroché sa première grande victoire après avoir terminé 3e à New York en 2022. En 2h07 minutes 39 secondes, Nagui a devancé 3 anciens vainqueurs à New York et les Kenyans Evan Chebet, 2h07 minutes 45 secondes, et Albert Korir, 2h08 minutes, et le champion olympique éthiopien Tamirat Tola, 2h08 minutes 12 secondes. Né en 1989 en Somalie, Nagei avait fui la guerre civile avec ses frères pour les Pays-Bas en 1996. Il est le premier européen à s'imposer à New York chez les hommes depuis l'italien Giacomo Leone en 1996. Et avant de nous quitter, Jean-Roger, on peut parler du cyclisme avec la 35e édition du Tour international du Burkina Faso qui s'est achevée hier dimanche. Alors, après 10 étapes de course, le maillot jaune est revenu au Marocain, Mohsin El Kouradji. C'est ce que nous a rapporté notre correspondant Kader Traoré. Et c'est tout pour les sports de ce soir, Jean-Roger.
Page des sports VOA Afrique, signé Eric Manirakiza. Le Monde aujourd'hui, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Jean-Roger Bio à ce micro, à la mise en onde, Joselle Morissin. Un grand merci à la rédaction et à toute l'équipe de production. Rendez-vous sur notre site internet voafrique.com et nos pages Facebook, YouTube, la plateforme X et Instagram pour un suivi de l'actualité 24 heures sur 24. Je vous souhaite une excellente soirée à l'écoute de nos programmes.